qu'on a une culture, nous, française, de la punition.
Et on pense que c'est normal.
Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent.
Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps.
Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix.
Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent. »
Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient.
Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain.
Bienvenue sur le podcast Les Adultes de Demain. Je m'appelle Stéphanie Descleb, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Attier que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Descleb, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode.
Bonjour à tous. Cet épisode, vous le remarquerez, est un peu plus long que d'habitude, tout simplement parce que j'aurais pu écouter David encore pendant des heures. David Dutarte est un spécialiste de l'approche de Jesper Juhl, un penseur mondialement reconnu à qui l'on doit des avancées majeures en termes de valeurs éducatives centrées sur les besoins des enfants et des adultes. Si son nom ne vous est pas familier, c'est normal. Son travail a peu traversé les frontières des pays latins où nous restons encore trop attachés à des relations verticales fondées sur l'autorité et l'obéissance. Écouter David m'a profondément bouleversée, puisqu'il a su démontrer avec une clarté remarquable à quel point le respect, la confiance et la qualité des relations sont au cœur d'une vie harmonieuse, que ce soit au sein de la famille ou dans les structures qui accueillent des enfants. Il a su rappeler aussi ô combien il est essentiel de se reconnecter à notre enfant intérieur pour retrouver ce trésor, qu'est la capacité à ressentir de manière authentique, indispensable à des relations apaisées avec les enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour David.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien, merci.
Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Tu viens de Strasbourg pour cet enregistrement dans les ateliers 62. Je dois t'avouer que c'est l'une de mes fidèles auditrices qui m'a vivement encouragée à t'interviewer. Je ne connaissais pas encore ton travail. Et quelle joie j'ai eue lorsque j'ai découvert que tu étais l'un des grands spécialistes en France du travail de Jesper Juhl. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jesper Juhl était un thérapeute danois, je dis « était » puisqu'il est décédé en 2019, et une figure majeure dans l'évolution du regard porté sur l'enfance et l'éducation en Scandinavie, mais pas que, à l'international. Son ouvrage de référence s'appelle « Regarde, ton enfant est compétent », publié en 1995, et propose une approche novatrice, car plutôt que de s'appuyer sur des méthodes éducatives strictes, il invite à fonder la relation adulte-enfant sur des valeurs essentielles capables de transformer profondément les dynamiques familiales et éducatives. Nous y reviendrons. Alors toi, tu connais cette approche mieux que quiconque, tu as traduit certains de ses essais, tu as été formé auprès de lui en Scandinavie et tu œuvres pour l'éducation depuis plus de 25 ans. À travers le réseau Family Lab France, tu animes des ateliers pour parents et aussi professionnels et des conférences avec un objectif clair, faire émerger le meilleur en chaque famille et contribuer à transformer l'école et la petite enfance. Tu viens d'ailleurs de publier un nouvel ouvrage que j'ai adoré. Il s'appelle « De l'équidignité, cultiver cette présence qui fait grandir » aux éditions Faber. Alors l'approche Jesper Juhl reste relativement méconnue en France, ce qui est assez surprenant. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi, selon toi, on connaît si peu cette approche et pourquoi elle mériterait d'être plus connue ?
Eh bien, merci déjà pour cette introduction qui résume parfaitement mon parcours et puis ce que Jesper Juhl amène. Effectivement, il est méconnu. Je me souviens quand je l'ai rencontré et que j'avais lu justement son premier ouvrage « Regarde ton enfant incompétent », j'avais dit est-ce que vous avez essayé de le faire traduire en français ? Parce qu'il y a besoin de faire découvrir ça aux Français. Et il m'avait dit « Ah non, bah, il date de 95, j'ai essayé. » Et là, les éditeurs m'avaient dit « Les Français ne sont pas prêts pour ça. » Et moi, comme j'ai vécu en Scandinavie, quand je suis rentré en France, je lui ai dit « Je vais essayer à mon tour. » Et effectivement, j'ai vu que c'était compliqué. En redécouvrant un petit peu la France et en creusant un peu, en m'impliquant dans une association notamment, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que c'était si compliqué. À mon sens, il y a plein de raisons à tout ça. J'en parle un petit peu d'ailleurs dans mon livre par rapport à ces questions de valeurs. Et on a ces belles valeurs, nous, liberté, égalité, fraternité, qui sont là. Et lui, il amène des valeurs. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que ces valeurs correspondent? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent, etc. Après, je crois qu'il y a aussi en France une culture de l'esprit, hein, qui nous vient déjà de Descartes, et cette vision séparée, corps-esprit. Et puis il y a toute la psychanalyse, le courant de la psychanalyse qui est encore très 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 fort en France. Jaspers Huill, il se place dans le mouvement de la thérapie familiale systémique, voire même ce qui le caractérise plus précisément, c'est la thérapie expérientielle, où ce qui est au cœur, c'est la relation. Donc c'est quelque chose de très très différent, et j'ai vu que la systémie avait eu du mal à prendre en France. Après, il y a toutes ces questions aussi de la théorie de l'attachement, la théorie de l'empathie. Même si ça fait plus de 60-70 ans maintenant qu'on en parle, en France, on a l'impression que c'est tout nouveau, comme s'il y avait une résistance de la part du milieu, peut-être de la psychologie, de la psychanalyse. Enfin, voilà, c'est un petit peu des pistes, en tout cas dans ma réflexion. Et puis peut-être c'est aussi une culture religieuse, le catholicisme, le protestantisme, voilà, il y a une relation différente, notion de culpabilité, notion de responsabilité, enfin voilà, il y a plein d'éléments, je pense, qui font que. Mais peut-être le plus fort, c'est, je pense qu'on est encore tellement ancré dans cette culture de l'obéissance et cette manière de voir le respect à sens unique, ou l'enfant de respecter l'adulte, qu'on a intégré ça, et se défaire de ça, c'est compliqué. Enfin, peut-être qu'on en parlera un petit peu à un moment, mais là, c'est sans doute aussi une des raisons profondes, parce que je vois que, enfin, moi, quand je suis arrivé là-bas, c'était 15 ans à peu près après, ou un peu plus de 15 ans après l'interdiction des violences éducatives. Et je me suis trouvé confronté aux générations qui avaient, les premières générations qui avaient grandi sans fesser et qui m'ont interpellé directement. Mais en France, vous frappez les enfants. Et voilà, donc pour moi, ça a été une prise de conscience à ce moment-là. Et je me dis, on connaît les conséquences de tout ça aujourd'hui, que ça s'ancre dans le cerveau, que ça induit que ce ne sont pas des violences. Enfin, on est dans une forme de déni. Donc, tout ça fait que c'est compliqué à...
Et pourtant, tu le précisais avant l'enregistrement, qu'en effet, Jesper Juhl, il n'est pas connu uniquement en Scandinavie.
Ouais, il avait fondé un institut de formation de thérapie familiale au Danemark qui rayonnait sur toute la Scandinavie. Toute sa pensée a été d'abord reconnue et puis mise en avant à travers de ses deux, trois premiers ouvrages en Scandinavie. Mais très vite, en Allemagne, ils se sont saisis de sa pensée et il a lancé du coup le réseau Family Lab, le laboratoire des familles, du coup en 2002-2004, en Allemagne, en parallèle du réseau qu'il lançait en Scandinavie. Et comme il parlait allemand, du coup il a pu être interviewé, il est venu en Allemagne, et ses ouvrages ont été adoubés par les médias, par la presse, et puis par les parents et les professionnels. Donc petit à petit, le réseau s'est étendu en Europe centrale. Il avait lui-même aussi travaillé pendant les années 90 en ex-Yougoslavie, dans les camps de réfugiés. Il a travaillé avec Marshall Rosenberg notamment, la communication non violente. Donc du coup, il a été connu aussi là-bas. Il a formé pas mal de monde dans les Balkans. Ce qui fait qu'il y a toute une frange comme ça de l'Europe du Nord jusqu'à l'Europe centrale, et l'Europe du sud des Balkans qui est très sensible à son approche.
Oui.
Et par contre, je constate en contrepartie que dans les pays latins, en Italie, en Espagne, en France, c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais, c'est plus compliqué. Nous y reviendrons. Alors, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui, toi, t'a immédiatement touché dans son approche par rapport à d'autres courants de pensée sur l'enfance, sur l'éducation. Et donc, que tu prennes ce temps pour nous expliquer quels sont, selon toi, ses principaux apports.
Je me souviens exactement de ce premier livre que j'ai découvert, qu'on nous avait offert. J'étais pas encore papa, j'allais le devenir. Et donc, ce livre, le titre en danois, c'est « Ton enfant compétent ». Et je me souviens, dans l'introduction, au bout de 2-3 pages, il dit clairement l'objectif de cet ouvrage, c'est de montrer que l'essentiel de ce qu'on appelle traditionnellement éducation, non seulement c'est superflu, mais c'est nocif. Nocif parce que c'est malsain pour l'enfant, parce que ça empêche l'épanouissement des enfants et des adultes, et puis que ça fausse les relations, en fait, d'une manière toxique. Et donc moi, quand j'ai lu ça la première fois, c'était bam, waouh, qu'est-ce qu'il vient dire? Mais alors, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, non seulement c'est malsain, mais en plus c'est inutile. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Et au fil de la lecture de cet ouvrage, j'ai compris que j'avais été un enfant compétent. Alors, on reviendra peut-être sur ce que ça veut dire ce qu'on entend par enfant compétent aujourd'hui. Mais donc, j'ai compris que, en fait, enfant, j'avais exprimé des choses, mais que ça n'avait pas été vu, que ça n'avait pas été reconnu ou entendu. Et du coup, j'ai mis en place des schémas de fonctionnement, de réponses, etc., qui font que, effectivement, ça n'a pas contribué à mon plein épanouissement. Alors, bien sûr que j'ai grandi quand même, je me suis épanoui d'une certaine manière, mais au regard de ce qu'il présente dans ses ouvrages, et notamment ce qui est au cœur de sa pensée, c'est le développement de l'estime de soi. Moi, je me suis retrouvé en lisant ces ouvrages à me dire, mais en fait, j'ai une estime de soi qui aura des pâquerettes, j'ai une estime de soi faible de moi-même, donc c'est ces choses-là qui m'ont touché en premier lieu. Et puis après, de voir en fait que, il explique clairement aussi qu'il n'y a pas de méthode toute faite, qu'il n'y a pas de recette miracle, que c'est vraiment dans l'interaction avec l'enfant que le parent peut mettre en place des choses pour l'épanouissement de l'enfant, pour respecter ses besoins. Mais en même temps, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il met aussi en avant les besoins des parents, les besoins des adultes, et il va même peut-être jusqu'à dire qu'ils sont plus importants que les besoins des enfants. Parce qu'un parent qui va bien va pouvoir prendre mieux soin d'un enfant. Donc il ramène une forme d'équilibre entre les besoins de l'enfant et puis les besoins de l'adulte. Et plus que mettre l'enfant au cœur de nos préoccupations, en fait, il met la relation au cœur de sa pensée.
Et en quoi alors un enfant est compétent?
Alors là, c'est... ce que nous apporte en fait la psychologie moderne, qui est confirmée aujourd'hui par les neurosciences, toute la théorie de l'attachement, la théorie de l'empathie, elle vient remettre en question cette idée que l'enfant était un être asocial, égoïste, un être de pulsion qui n'était là que pour satisfaire ses désirs, ses envies, et donc il fallait le frustrer, castrer, entre guillemets, en fait, dans cette approche-là. Donc un être qui potentiellement n'est pas coopérant. Bon, on sait aujourd'hui que tout ça, c'est une vision obsolète, une conception obsolète de l'enfance. On sait que l'enfant, c'est un être social, que c'est un être de relation, un être tourné vers les autres, un être d'empathie, dès la naissance, voire même peut-être même avant. C'est un être aussi, et ça c'est un point important pour moi dans la manière dont Yule parle de tout ça, c'est un être qui ressent, un être sensible, un être qui ressent les choses et qui a la capacité d'exprimer son ressenti. Donc d'exprimer ses émotions, ses besoins, ses envies, ses souhaits, ses désirs. Bien sûr, pas avec des mots quand il est tout petit, mais il va l'exprimer par des gestes, des sons, des mimiques, etc. Mais il est dépendant de l'adulte pour que ce qu'il exprime soit entendu, reconnu, justement.
Comme tu le disais, Jesper Juhl, il a profondément travaillé sur la relation entre les adultes et les enfants. En quoi sa vision de cette relation entre adultes, entre enfants, c'est-à-dire entre professionnels-enfants, entre parents-enfants aussi, diffère des modèles éducatifs que l'on connaît dans nos sociétés occidentales et assez traditionnelles dans notre manière de voir l'éducation?
On part d'un modèle de relation dominant-dominé, hein, je vais le dire d'entrée, cash, basé sur ce rapport asymétrique entre l'adulte et l'enfant. Un rapport asymétrique parce que justement, l'enfant, avec toutes ses compétences, certes, il est dépendant de l'adulte lorsqu'il vient au monde. L'adulte a tous les pouvoirs. Et dans l'approche traditionnelle, partant du concept de l'enfant qui était du coup incompétent, en tout cas asocial, etc., il fallait lui apprendre. Donc l'adulte était là de manière descendante pour transmettre et apprendre à l'enfant justement comment se comporter en société et comment être avec les autres. Et le modèle derrière, c'est l'autoritarisme. Et ça n'a rien à voir avec l'autorité. Enfin, c'est une manière d'exprimer l'autorité. Mais je vais en parler. Enfin, l'autorité telle que Yespeyou et ses collègues l'ont mise en avant et expérimentée, et telle que les Scandinaves, petit à petit, ont mis en place, c'est tout autre chose. Donc, dans ce modèle vertical descendant, en fait, il y a un respect qui est à sens unique. C'est-à-dire que l'enfant doit respecter l'adulte, parce que c'est un adulte. L'enfant doit respecter son parent parce que c'est son parent. L'enfant doit respecter son enseignant, sa maîtresse, parce que c'est l'enseignant, la maîtresse. Donc c'est une forme de respect ou une forme d'autorité qui est basée sur les rôles. Quand l'adulte se sent respecté, tout va bien. C'est quand l'adulte ne se sent pas respecté que du coup, ben, on entrait dans une forme de relation qui était basée sur le contrôle, donner des leçons, faire la morale, punir, la critique, la récompense, donc c'est la carotte, le bâton, enfin c'est ce modèle-là qui est derrière, modèle qu'on a quand même rejeté avec dans les années 70. Rejetant ça, on est allé à tâtons. Et aujourd'hui, on a ce débat entre autoritarisme et laisser-faire. Mais le laisser-faire, c'est juste le modèle inversé, où on va parler d'enfant-roi, etc., où c'est l'enfant qui a tout le pouvoir sur l'adulte. Et depuis, on oscille un petit peu à aller chercher un équilibre là entre ces deux extrêmes. Tant qu'on reste sur cette vision-là des choses, on n'avance pas, en fait. Il ne s'agit pas de trouver un équilibre ou un milieu entre ces deux-là. Pour moi, donc dans la suite de ce que Yespeyou met en avant dans ses ouvrages, il s'agit d'avancer sur une nouvelle voie. Donc le premier pas, c'est ce changement de regard sur l'enfant, de voir l'enfant comme un être compétent. Et puis ensuite, donc, de construire des relations... il nous faut d'abord un socle de confiance, un socle horizontal, et c'est là que Yespeyou met en avant une valeur clé qui est l'équidignité. Et puis sur ce socle horizontal, donc, qui permet d'avoir un respect réciproque, un respect donc à double sens, l'enfant va respecter l'adulte, l'adulte va respecter l'enfant. Mais comme l'adulte est celui qui a les pouvoirs et l'adulte reste le modèle, si l'adulte veut que l'enfant le respecte, il faut aussi et peut-être d'abord que l'adulte respecte l'enfant. Quand l'enfant montre une limite, ou quand l'enfant exprime quelque chose, que ça puisse être entendu, reconnu, et satisfait dans le meilleur des cas. Après, il y a des moments où on ne peut pas satisfaire aux demandes de l'enfant, et c'est important de pouvoir, du coup, dire non, et donc être dans une forme d'autorité, si je reviens peut-être là à l'origine du mot, et dans autorité, il y a autoriser, et donc l'adulte autorise ou non. Donc il y a parfois on va dire oui et parfois on va dire non. Bien sûr, c'est plus facile quand on dit oui parce qu'on va dans le sens de l'enfant et là l'enfant est content. Si on le dit non, forcément derrière il va y avoir une frustration, mais ça demande à ce que l'adulte soit là, du coup dans une forme de verticalité, mais qui correspond ou qui va faire écho à la verticalité de l'enfant, le non de l'enfant, le non de l'adulte, le oui de l'enfant, le oui de l'adulte. Donc là on va être dans une forme d'autorité on va qualifier de personnel, c'est-à-dire que l'adulte va se faire respecter pour la personne qu'il est. Et pour ça, Yespeyou et ses collègues s'appuient sur trois valeurs qui sont l'intégrité, la responsabilité personnelle et l'authenticité. C'est-à-dire quand j'agis de manière responsable, c'est-à-dire que je prends soin de mon intégrité, c'est-à-dire de mes besoins, de mes envies, de mes pensées, et que je respecte en même temps l'intégrité de l'enfant, donc ses besoins, ses envies, et que je le fais de manière authentique, j'inspire le respect pour la personne que je suis, et pas pour juste le rôle que je joue. Donc ça change forcément la qualité du contact. Cette authenticité, elle amène un contact, un vrai contact chaleureux, et cette autorité ne peut se construire que s'il y a ce socle horizontal. Sans cette confiance-là, on n'avance pas, On va se retrouver dans des situations conflictuelles en permanence. Et puis, sans confiance, il y a méfiance. Et en fait, ça, c'est ce qui était au cœur de l'approche autoritaire. Dans l'approche autoritaire, dans l'autoritarisme, on n'apprend pas à l'enfant à respecter l'adulte, on apprend à l'enfant à craindre l'adulte.
Et c'est ce qu'on retrouve avec cette valeur de l'équidignité. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Oui, c'est une... Pour moi, c'est le mot-clé. C'est la base. C'est pour ça aussi que je l'ai repris dans le titre de l'ouvrage que je viens de décrire. Déjà, c'est un terme qui existe dans les langues scandinaves, par la manière dont ils construisent les mots. Et quand les premiers ouvrages ont été traduits, c'est pas moi qui les ai traduits, les premiers ouvrages, c'est notamment une collègue au Danemark, mais j'ai travaillé avec elle et on a beaucoup réfléchi à ce terme. Et donc ce qui nous est venu, c'est équidignité. Donc il se compose de dignité et puis équide comme équivalence. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait d'amener cette idée que qu'on soit dans le respect identique de la dignité et de l'intégrité des deux partenaires de la relation. Donc c'est assez révolutionnaire, parce que ça veut dire respect identique de la dignité et de l'intégrité de l'enfant et de l'adulte. Donc concrètement, c'est le respect identique, c'est-à-dire qu'on y met la même valeur, sur tout ce qui touche à l'expression spontanée du ressenti de l'enfant et du ressenti de l'adulte. Donc ça veut dire les besoins de l'enfant ont autant de valeur pour la relation que les besoins de l'adulte. Et ça vaut pour les émotions, pour les pensées, pour les rêves, pour les souhaits, pour les croyances, pour l'expérience. Donc c'est très concret, c'est très palpable. Et c'est simple, sur le fond. Quand j'en parle lors des interventions que je fais, le concept est très simple à expliquer. Après, le défi, c'est de le mettre en œuvre. Parce que quand l'enfant est joyeux, que je suis joyeux, il n'y a pas de problème, ça va. C'est quand il y a un décalage entre les besoins de l'enfant, ou les souhaits de l'enfant, les envies de l'enfant, ses désirs, et puis les miens, qu'il y a cette confrontation. Mais c'est dans cette confrontation, justement, que chacun va pouvoir grandir si... il y a ce socle horizontal, c'est-à-dire que si on part du principe que ce qu'exprime l'enfant a du sens, s'il y a une émotion, on le sait aujourd'hui, les émotions, c'est des réactions physiologiques, elles ont un sens. S'il est en colère, c'est parce que derrière, il y a une frustration, il y a une injustice, il y a une atteinte à son intégrité. Ça veut dire que la colère, elle est légitime. Après, c'est selon comment on va reconnaître cette légitimité. Eh ben, soit ça va permettre à l'enfant de s'apaiser, d'être traversé par cette colère, soit au contraire, si on ne la reconnaît pas, ben l'enfant il va continuer de se battre pour l'exprimer. Donc la colère monte. Et ça, c'est pareil pour la tristesse, pour toutes les émotions. Donc ce qu'il y a derrière, c'est le fait de voir, entendre, reconnaître l'autre comme une personne digne, avec tout ce qu'il ou elle exprime dans l'instant. Sachant que ça évolue d'un instant à l'autre. Et puis en même temps, de se dire qu'il y a aussi mon ressenti à moi, et qu'il a aussi sa place, avec autant de valeur.
Et les enfants ont cette capacité à intégrer le ressenti, les besoins, les émotions de leurs parents.
Bien sûr, bien sûr. Justement, il y a cette capacité d'empathie. Eux ressentent les choses peut-être justement beaucoup plus rapidement et intensément que nous, parce que nous, par l'approche, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, on le sait aujourd'hui, l'approche autoritaire avec punition et toutes ces choses-là qu'on peut... mettre en place pour dans cette approche autoritaire, l'enfant se coupe de son ressenti progressivement. Donc quand on devient adulte, on est plus ou moins, j'ai envie de dire, carencé affectivement par rapport ne serait-ce que pour parler des émotions ou de nos besoins. Quand je le vois dans les ateliers, quand on fait un tour de table des fois pour commencer, que j'interroge les parents, et alors comment c'est pour vous ? Alors généralement, hop, tout va bien. Et quand on creuse un peu, mais qu'est-ce que vous ressentez là ? Moi, je ne ressens rien. Alors qu'en fait, bah, bien sûr que si, on a toujours cette capacité de ressentir les choses, mais peut-être qu'on s'en est plus ou moins déconnecté. L'enfant, lui, à la naissance et dans ses premiers mois de vie, il est connecté à son ressenti profond. Et il l'exprime. Mais il est dépendant de nous pour qu'il soit entendu, reconnu, etc. On dit aussi qu'ils sont des éponges. L'enfant est capable de ressentir, de par cette capacité d'empathie, ce que l'autre est en train de ressentir. Et ils font confiance absolue dans les adultes. Donc peut-être le défi pour nous, c'est de leur faire confiance dans le fait que ce qu'ils expriment a du sens pour la relation, même si ça nous déplaît. Généralement, quand on accueille assez facilement quand c'est harmonieux, quand on les voit sourire et jouer, etc., on accueille ça. Mais quand il y a quelque chose qui grince un peu, qui grésille un petit peu, qui vient entacher la relation de friction, ben c'est moins agréable, forcément. Mais c'est là que peut-être le défi le plus important, parce que ça nous demande d'aller voir et accueillir ce qui est là, ce qui émane de chez l'autre, tout en essayant de faire attention à ce qui est chez nous aussi. Donc eux sont sensibles à ça et ils s'attachent avant tout à ça. Une autre manière d'en parler, c'est justement dans l'approche autoritaire, on exprimait plein de choses, sauf qu'on faisait parfois le contraire. Combien par exemple d'enfants ou d'adultes n'ont pas entendu un parent dire on frappe pas plus petit que soi. Et puis en même temps, bam, on pouvait leur en mettre une en même temps. Donc ce double langage, ce double discours, il se manifeste aussi dans ce que l'adulte ressent et puis ce qu'il met en mots, ce qu'il verbalise. Et en fait, cette incohérence parfois entre le ressenti et ce que l'adulte exprime, ça vient se manifester peut-être dans ce qu'on pouvait dire « fais ce que je dis et pas ce que je fais ». Parce qu'on sait très bien que, et on le fait tous, il y a des moments où on voudrait faire quelque chose, et en fait, on pense, on a comme idée que c'est comme ça que je veux faire, et puis en fait, on fait complètement autrement. Et c'est ce décalage-là, ces incohérences-là entre voilà, ce qui est en nous et puis la manière dont on le met en œuvre. Mais l'enfant, il s'attache beaucoup plus à ce qui est à l'intérieur, et donc il s'accorde à ça. Ils ont cette capacité, moi, qui est assez fascinante. Je pense là à un pédopsychiatre américain, Daniel Stern, qui avait notamment écrit un ouvrage, Le journal d'un bébé, je crois que ça s'appelle, où il parle de cette capacité de l'enfant à se mettre en résonance avec ce que l'adulte exprime, mais ce qu'il exprime de l'intérieur. C'est pour ça aussi que cette valeur d'authenticité est extrêmement importante. Quand on est authentique, c'est-à-dire qu'il y a cohérence entre ce qui est à l'intérieur et puis ce que j'exprime et ce que je manifeste, eh ben, c'est clair. Ouais. Et cette clarté, c'est ça qui est essentiel pour l'enfant. Un parent qui est clair, ben pour l'enfant, c'est clair de s'adapter. Voilà, c'est comme ça. Mais si c'est... J'en parle des fois, je prends l'image d'un phare. L'adulte, c'est un phare pour l'enfant, c'est un guide. Bon, ben, si le phare clignote vert de manière précise, bon, ben, l'enfant sait que c'est vert. Si c'est rouge, c'est rouge. Mais si ça passe du vert au rouge, au vert au rouge, ça change tout le temps, un coup c'est orange, un coup c'est bleu, ben, l'enfant, il ne sait pas. Et dans cette confusion-là, s'il voit que ça clignote vert à l'intérieur, mais en fait la lampe elle est toute rouge là-haut, eh ben, je fais quoi Alors là, on parle de l'enfant, mais ça vaut pour les relations entre adultes. Quand quelqu'un n'est pas clair et qu'il exprime de manière pas authentique certaines choses, par exemple, mais c'est compliqué. Et alors j'en parle comme ça, mais ça l'est compliqué pour moi aussi, parce que justement, on n'a pas eu ce... Enfin, moi, j'ai pas eu ce modèle-là, et la plupart d'entre nous n'avons pas eu ce modèle d'autorité, d'adulte qui incarne une autorité personnelle, une autorité intérieure avec intégrité, respect, authenticité, responsabilité. On n'a pas eu ce modèle-là. Donc le mettre en œuvre, c'est un vrai défi. C'est changer de regard sur l'enfant, c'est changer de regard sur les relations, ne pas avoir peur de cette horizontalité, et puis oser s'affirmer dans cette verticalité intérieure.
Et tu parles notamment beaucoup du principe de verticalité descendante dont on a hérité dans nos modèles éducatifs. Jesper Juhl, il a aussi beaucoup parlé des notions d'obéissance. Donc, tu as parlé d'autorité. Et en France, tu sais bien comme l'obéissance est encore sur beaucoup de bouches de certains adultes. Comment est-ce qu'il abordait, lui, cette question de l'obéissance? Je sais qu'il parlait notamment leadership parental bienveillant. Je pense que c'est important que tu reviennes là-dessus parce que c'est quelque chose où j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup de mal à déconstruire ces principes-là.
Oui, je suis tout à fait d'accord. On apprend à obéir. C'est dingue comment on apprend à obéir. C'est peut-être le premier mot que les enfants apprennent. L'obéissance, telle qu'elle est vécue dans l'approche autoritariste, l'éducation, dans cet autoritarisme, c'est justement ce respect à sens unique. L'enfant doit obéir à l'adulte. Et pour l'adulte, quand on disait un enfant bien élevé, c'est un enfant docile, obéissant, sage. Ça, c'est encore profondément ancré chez nous. Après, c'est un modèle d'éducation qui n'est pas propre à la France. C'est le modèle qui était le plus répandu à travers le monde, mais qui vient se manifester forcément différemment. Et puis qui a évolué au fil des prises de conscience dans les différents pays. Donc les Scandinaves, il y a 50 ans, ils ont interdit la fessée, mais c'était déjà une discussion qui existait depuis le début du XXe siècle. Donc petit à petit, ils sont arrivés à prendre conscience et à prendre en compte les besoins des enfants, au même titre que les besoins des adultes, donc avec un certain temps d'avance sur nous. Donc cette question de l'obéissance, nous, elle reste profondément ancrée. Pour moi, elle est associée à cette idée que l'enfant doit respecter l'adulte. On est encore beaucoup là-dedans en France. Alors oui, l'enfant doit respecter... Enfin, pour moi, c'est important que l'enfant respecte l'adulte. Mais comme je disais, si on veut que l'enfant respecte l'adulte, il nous faut aussi... nous, voire même avant tout, nous, respecter l'enfant. Juhl, toute son approche, elle pourrait se résumer à un changement de paradigme de l'obéissance à la responsabilité. Il en parle comme ça. L'humain pense en binaire, donc obéissance, contraire, désobéissance. Autoritarisme, laisser faire. Bon, c'est en fait cette dichotomie-là entre obéissance, désobéissance. Autoritarisme, laisser faire. Le débat là-dessus, j'en parlais déjà tout à l'heure, c'est un débat qui est stérile. On continue de se battre en France là-dessus, et on l'a vu encore ces dernières années entre l'éducation bienveillante, avec d'un côté Isabelle Filioza, Catherine Guéguin, etc., et puis de l'autre côté Caroline Goldman, qui est venue remettre la question de l'autoritarisme. Peut-être pas dit avec ces mots-là, mais en fait c'est exactement ça qui est derrière. C'est quand même l'enfant doit respecter l'adulte, et uniquement du coup à sens unique. C'est important, la capacité à obéir, elle est importante parce qu'elle nous permet de développer l'autodiscipline et de développer aussi cette motivation intérieure. Donc elle est importante justement pour développer cette autorité intérieure. Mais en même temps, l'obéissance, l'exigence d'obéissance absolue, elle empêche l'épanouissement humain. Et si on pense à l'histoire et au drame qu'il y a pu avoir dans l'histoire par rapport à ces phénomènes d'obéissance, les expériences, le kibbutz, le communisme, la Seconde Guerre mondiale, c'est cette capacité à obéir de manière tellement aveugle à l'autre qui a amené les conséquences qu'on sait. Donc on sait très bien que dans ce contexte-là, on ne s'épanouit pas. Donc l'obéissance absolue, l'exigence d'obéissance à l'absolu, elle ne permet pas l'épanouissement humain. Et puis depuis la Seconde Guerre mondiale, on s'intéresse du coup à l'épanouissement humain et notamment son épanouissement mental. Les conditions pour moi optimales de l'épanouissement humain, c'est de pouvoir choisir à qui et à quand j'obéis. C'est-à-dire quand je me sens respecté, et puis à qui et à quand je vais au contraire ne pas obéir parce que justement je ne me sens pas respecté. Donc c'est cette liberté de choix, et peut-être on parle de libre arbitre là, cette liberté de choix qui va faire que je vais obéir quand c'est bon pour moi, Et quand c'est pas bon pour moi, que ça porte atteinte à mon intégrité, là, j'ai dire stop. Et c'est comme ça que l'enfant va... Du coup, quand l'enfant... Ça se manifeste très rapidement, et généralement, on parle de la phase d'opposition. Là, vers 18 mois, 2 ans, quand l'enfant commence à marcher et à pouvoir gagner un petit peu en autonomie et en indépendance. En fait, à ce moment-là, il s'affirme. Il dit « je », donc il se dit « oui » à lui-même. Sauf que, bien sûr, quand il se dit « oui » à lui-même, quelque part, il vient nous dire « non » à nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va lui dire « non ». Donc, en fait, pour moi, c'est peut-être même... J'aime bien quand Jules en parle comme ça, il dit « c'est pas la phase d'opposition de l'enfant, c'est la phase d'opposition de l'adulte. Mmh. » Et comme l'enfant imite, eh ben forcément, à un moment... l'enfant finit par dire non, 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 s'il entend que non, 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 non de la part de l'adulte. Donc cette question du libre choix de à qui et quand obéir, elle est pour moi essentielle parce que elle nous permet de protéger notre intégrité quand on sent que là, ça va trop loin. Donc l'adulte, en tant que guide, en tant que personne référente, montre l'exemple. Et quoi qu'il fasse, c'est-à-dire qu'on ait tous les comportements constructifs, comme les enfants nous imitent, ils vont les prendre aussi de manière constructive pour eux. Puis, par contre, c'est tous ces comportements destructeurs qu'on a, parce que chacun d'entre nous agissons de temps à autre de manière destructrice, ben, les enfants vont les imiter aussi. Et donc le défi, c'est à partir du moment où on se rend compte que tiens, là, il y a un comportement que j'ai qui est destructeur, ben, quel est le pas de côté que je peux faire pour essayer de transformer ça? Et ben, du coup, quand je fais ça, je modélise quelqu'un d'authentique et de responsable. Et ça permet aussi à l'enfant de relativiser ben, que lui-même, ben, y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Que lui-même, ben, en plus, quand ils sont tout petits, 2-3 ans, leur cerveau n'est pas encore mature pour pouvoir être traversé par des émotions de manière qu'ils puissent s'apaiser seuls. Par exemple, ils ont besoin de notre présence pour s'apaiser. Donc cette présence de l'adulte qui va permettre à l'enfant de grandir, elle est indispensable.
J'aimerais qu'on revienne, puisqu'on va bientôt devoir se quitter, mais il y a quand même une expression moi, qui m'a beaucoup marquée à la lecture de ton livre. Tu défends l'idée d'un réveil de l'enfance vivante en nous. Et c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, puisque en effet, moi, à travers mon travail, les différentes interviews où j'échange avec des personnalités qui s'engagent pour l'enfance, c'est que pour moi, l'enfance a aussi cette chose magique, c'est qu'elle est universelle. Et on a souvent tendance à oublier que cette enfance, on l'a vécue nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce, selon toi, si important de renouer avec cette part de notre enfance, à la fois pour notre bien-être personnel, mais aussi pour le bien-être des enfants?
D'abord, j'ai envie de dire merci de poser cette question, parce que c'est quelque chose qui me tient effectivement à cœur. Je m'appuie là, en tout cas dans cette partie de l'ouvrage, sur la pensée d'Anne Dufour-Mantel, son livre « Éloge du risque », où elle parle de l'enfance et d'oser risquer l'enfance, justement. En fait, j'aime bien ça parce que, justement, quand je repense à la première fois où j'ai lu les premiers mots que j'ai lus des ouvrages de Jesper Juhl et qui ont été justement marquant pour moi, parce qu'il y a eu un avant et un après, vraiment, et depuis 20 ans que j'essaye de mettre ça en œuvre pour moi, je m'étais rendu compte, et je me suis dit, la première chose, je me suis dit, en fait, moi, j'étais aussi compétent quand j'étais enfant. Sauf que peut-être que ça n'a pas été vu tel que ça aurait dû l'être, pour me permettre de, justement, garder intact, enfin, intact, on garde jamais intact, mais en tout cas, garder présent en moi cette capacité à ressentir, à dire les choses, à exprimer, à oser, à prendre des risques, etc. etc. Et du coup, peut-être derrière, à faire confiance à mon ressenti. J'ai travaillé avec, et je me suis formé aussi auprès d'autres auteurs et spécialistes scandinaves, notamment une collègue de Jesper Juhl qui s'appelle Helle Jensen, qui fait tout un travail autour du développement de l'empathie, notamment dans les écoles en Scandinavie. Dans leurs ouvrages, ils mettent en avant cette idée que l'enfant, quand il vient au monde, il a cette aptitude à être en paix avec lui-même. Et puis, il vient équiper, en fait, pour être capable d'agir, d'interagir avec les autres. Et il est, certes, dépendant, interdépendant les uns des autres, mais donc on est avec cette capacité, on a les outils, tout le corps, c'est ça qui est fabuleux avec l'être humain, c'est que, puis les neurosciences nous le montrent aujourd'hui, les capacités de l'être humain sont énormes. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, on sait le faire. On savait le faire enfant, on l'a fait quand on était enfant. Donc il s'agit juste de réveiller ça. Parce que peut-être c'est un peu endormi, engourdi, enfoui au fond de nous. Mais c'est sûr, parce que certaines, dans le contexte autoritaire, où on n'est pas reconnu, pas vu, etc., on se coupe de tout ça. Forcément, il y a des blessures à l'âme. Des bleus, ça fait mal. Donc d'aller regarder ça, c'est compliqué. Ça vient réveiller justement des blessures de l'enfance. Mais quand si on commence à regarder un petit peu ça, en même temps, et c'est ça qui est formidable quand on devient parent ou quand on est professionnel et qu'on travaille avec des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient en primaire ou à l'adolescence, les enfants, ils sont encore connectés à ça. Et donc, quand on les observe, ça nous permet de, en parallèle, de pouvoir aussi revenir à nous et nous observer. Mmh. Ah, mais en fait, quand ils font... Moi aussi, je peux faire comme ça. Et on peut aussi les imiter, de manière beaucoup plus consciente. Mais en tout cas, ça nous permet, en voyant comment eux, ils font, de reconnecter avec ces aptitudes innées, naturelles. Et petit à petit, de... retrouver contact avec cette paix intérieure qui est là en chacun d'entre nous. Et quand on est apaisé, l'enfant peut aussi s'apaiser. Bien sûr, c'est encore une fois beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que pour pouvoir renouer contact avec tout ça, ça demande qu'on regarde, à ouvrir les yeux sur notre propre histoire, comme le dit Alice Miller, une thérapeute suisse. Qui n'est plus de ce monde, mais que j'aimais aussi beaucoup ses ouvrages et qui a profondément été touché aussi par le travail de J.S.P. Juhl. Donc c'est important cet aspect-là des choses, et ça nous permet quelque part de reconnecter aussi avec cette joie profonde qui est en nous, qui est toujours là, même si on l'a peut-être un peu mis de côté. En France, on a ce côté un peu râleur tout le temps, là, et à pointer la faute, et à pointer l'erreur, etc. J'ai pas trouvé ça en Scandinavie. J'ai trouvé, quand j'ai vécu là-bas, je voyais des gens qui, déjà, étaient en confiance les uns avec les autres. Et puis, quand on se rencontrait, il y avait de la joie. Alors, bien sûr qu'il y a de la joie, des fois, quand on se rencontre. Enfin, des fois, heureusement, assez souvent aussi, quand on se croise et qu'on rencontre d'autres personnes en France. Mais quelque part, je crois que d'aller réveiller l'enfance en nous, c'est d'aller réveiller aussi cette joie-là, et puis toute cette créativité, cette énergie de vie, cette pulsion de vie qui est là en nous, et qui nous permet qui nous permettrait peut-être sur le long terme d'éviter d'avoir, une fois adulte, forcément aller faire une psychothérapie, une psychanalyse. Je dis bien sûr que c'est intéressant de faire une analyse ou une thérapie pour soigner certaines blessures et comprendre pourquoi j'en suis où j'en suis dans ma manière d'interagir avec les autres. Mais les enfants sont un cadeau pour ça, parce qu'ils c'est pour ça que le réseau que J.S.P. Juhl a initié au Danemark et puis qu'on développe avec mes collègues en Europe et donc moi en France, c'est l'idée d'expérimenter et d'explorer dans la relation à l'enfant, toutes ces possibilités-là de renouer contact avec soi-même, de retrouver un petit peu cette joie initiale, de laisser agir cette créativité qui est là en chacun d'entre nous, et qui passe par des gestes, par la parole, par « tiens, je vais faire un pas de côté et puis agir autrement aujourd'hui », et qui nous met dans une présence du coup authentique à nous-mêmes. Et c'est ça, cette présence qui fait grandir.
Merci infiniment pour ça, David. Il faut qu'on se quitte maintenant. Alors, tu le sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ?
Eh bien, que leurs parents ouvrent les yeux, que les professionnels qu'ils rencontrent ouvrent les yeux sur leur histoire et portent un regard sur l'enfant, sur les relations, qui soit celui dont je viens de parler, naturellement. Je crois que c'est ce qui serait le plus souhaitable.
Je pense aussi. Je pense que cet épisode mérite d'être écouté par tous. Merci infiniment, David, pour ton temps.
Merci, merci à toi.
Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour à tous. Trouver le bon service pour des cours particuliers de qualité à domicile, c'est l'un des grands défis de la parentalité. J'ai décidé de m'associer à Anacour car je n'ai eu que des retours élogieux de mon entourage à leur sujet. Organisme créé en 1999, Anacour est le spécialiste du soutien scolaire avec des cours à domicile du CP au supérieur et ce, dans toutes les matières. Leur objectif est de répondre aux besoins spécifiques des familles en leur proposant un enseignant sur mesure, ce fameux tandem gagnant, et un suivi de qualité par les équipes pédagogiques. Dans ses 45 agences partout en France, Anacour propose aussi des stages intensifs en petits groupes ou de manière individuelle à domicile pendant les vacances scolaires pour travailler à fond une matière ou préparer un examen. Les enfants peuvent aussi continuer leur révision grâce à leur plateforme en ligne très fournie. Avec 93% des élèves ayant vu leur moyenne progresser, c'est un véritable gage de qualité. Et tous ces services sont facilités par la mise en place du crédit d'impôt immédiat de 50%. Le soutien scolaire en France concerne plus d'un million d'élèves. Alors si vous voulez aussi garantir une solution éducative adaptée à vos enfants pour les préparer aux examens ou simplement pour les faire progresser dans une matière, je vous invite à découvrir toute l'offre d'Anacour sur leur site www.anacour.com. Comme ils le disent si bien, à deux, on apprend mieux. À très bientôt!